dans mon ventre qui mange tout mon bonheur qui recrache mes.
Les 17, 18 et 19 avril, c'est le temps d'assister aux demi-finales des Francouvertes avec MCC, Les Louanges, Vulvette, Laurence Anne, Van Carton, Lydia Kipinski, Valérie Vaughan, Renard Blanc et Sean Jobin. Contribuez au choix des trois finalistes de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, allez au www.francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil pour un vin. Cherche un vin surprenant, jeune, avec une finale émergente.
Oh, je travaille pas ici, madame, mais ce que vous cherchez, c'est le festival Vue sur la Relève.
Ah, oh, je le connais pas, celui-là.
C'est un festival qui va avoir lieu du 9 au 20 mai à Montréal. Il y a du théâtre, comme la pièce Petit crime contre l'humanité, de la danse, de la musique.
Wow!
Il y a aussi des parrains de soirée, Karim Ouellet, Valérie Blais, Gazeline. Le tout en collaboration avec Québécois.
Je vais en prendre deux bouteilles.
Oui, mais madame, je travaille pas ici. Pour les billets, allez sur vuesurlarelève.com.
60 minutes de bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission Du Coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur Choc. La musique au rendez-vous.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition 136 de Pop en Stock Radio. Mon nom est Jean-Michel Bertion, mais aujourd'hui... je vais tenter de survivre dans un climat hostile puisque l'on pourchasse ma chair si tendre et si académique. On parle de Resident Evil avec, ma foi, une tablée assez remplie. Donc, je vais laisser la place à Christopher Chauncey. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Oui, mais comme je te dis, je suis un peu...
je comprends.
Je n'ai pas joué à Resident Evil depuis le 4, 5.
C'est pour ça que je suis là.
Tu es là pour moi. Et tu as amené, c'est ça, comme je disais, la tablée la plus érudite sur le sujet.
C'est effectivement, on est avec les gros guns aujourd'hui.
Les gros guns.
Ouais, on a des gros cerveaux ici. Fait que même moi, en fait, je vais laisser beaucoup la place aux autres parce que, ben, ils vont en avoir. Ils ont des trucs pas mal plus précis que moi à dire sur des sujets. Ceci dit, par exemple. Je pense avoir été un des seuls à avoir joué au dernier Resident Evil. Fait que je vais peut-être faire ma petite chronique là-dessus au début.
Ben, j'ai très, très hâte d'entendre ça. On commence avec Sylvain Lavallée. Bonjour.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Merci de l'invitation.
Merci énormément de l'avoir accepté. Resident, c'est un gros morceau de la culture vidéoludique, ça se dit? Vidéoludique?
Ben oui, oui, ouais. Vidéoludique. Oui.
Ah, super. Je suis content d'avoir au moins partir avec les bons termes, tu sais, pour pas dire... De la culture des petites affaires avec les manettes puis les piou-piou. Je compte dire les affaires qu'essaie de manger. Aussi, Hugo Montembeau, bonjour.
Oui, bonjour. Merci de me recevoir.
Ça me fait très plaisir. Vous deux, vous êtes étudiants, en fait, ou est-ce que vous avez terminé vos études dans le milieu en jeu vidéo?
Je suis pas en jeu vidéo, je suis en cinéma, mais oui, je suis en train de faire une maîtrise présentement.
Excellent.
Oui, pour moi, candidat au doctorat pour l'instant, très fier de l'être et commencer à être chargé de cours à l'Université de Montréal aussi dans un nouveau programme en études de jeux vidéo.
Félicitations. Et parlant du programme en jeux vidéo, on a aussi Bernard Perron.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Je suis vraiment content.
J'aimerais juste noter en partant, donc quand on parle de gros cerveaux dans Resident Evil, il faut les éclater, ces cerveaux-là. Donc ça commence très mal l'émission de parler de gros cerveaux et on sait très bien que plus le cerveau est gros, plus il est facile à tirer. Donc j'aimerais savoir un petit cerveau aujourd'hui pour pouvoir rester vivant jusqu'à la fin et d'être le fameux boss final autour duquel il faut travailler pendant 15 minutes pour pouvoir s'en sortir vivant.
Je le sais.
qu'on va avoir une bonne émission. Ça commence avec un débat gros cerveau, petit cerveau, on est à bonne place. L'émission a été proposée notamment parce que en janvier, le 7e opus de Resident Evil est sorti.
Exact.
Il y a aussi un film. Est-ce que la sortie a été simultanée?
Je pense qu'ils ont sorti le teaser pour le prochain film.
Non, il est sorti le film. Il est sorti ce janvier. Les deux sont sortis genre à deux ou trois semaines d'intervalle, je pense.
Ah, la synchronicité, OK. Donc, beaucoup, beaucoup de Resident Evil en vue, puis beaucoup d'objets culturels à être capable de balancer en même temps. C'était aussi, avec le Resident 7, si je me trompe pas, le premier gros titre à offrir une version VR.
Où je serais plutôt d'accord, ouais.
Oui, oui, bien sûr. Mm-hmm. Ouais.
Donc, un gros moment pour Resident Evil. Là.
Quand même.
C'est pour ça qu'on fait une émission là-dessus.
Yes. C'est surprenant, en fait, à quel point on peut dire que le dernier Resident Evil a comme innové, en fait, dans le jeu vidéo, avec un septième opus. T'sais, normalement, les séries, ils arrêtent d'innover. Tu sais, combien de Call of Duty qu'on a vu qui se ressemblent un après l'autre. Là.
Ouais.
Mais c'est le fun de voir, en fait, que Resident Evil 7, ils ont poussé un peu la limite. Non seulement ça, mais ils ont poussé la limite technologique tout en revenant un peu aux sources dans la manière que ça a été fait. Puis je peux me lancer là-dessus, si tu veux, Jean-Michel.
Ben oui, c'est beau, oui.
Fait que, dans le fond, effectivement, il est sorti le 24 janvier, le Resident Evil, qui est un survival horror. Bon, puis l'histoire, vite, c'est on joue Ethan Winters, qui est, bon, un monsieur tout le monde, qui est amené à se rendre en Louisiane quand il reçoit un message de sa femme Mia, qui est portée disparue depuis 3 ans. Bon, ça amène Ethan à découvrir une maison qui semble abandonnée dans le bayou, puis il finit par tomber prisonnier d'une famille qui s'appelle les Bakers, puis ils sont comme pas tous là mentalement. Je veux pas trop donner de spoilers, mais l'histoire de là a dégringole d'un bord puis de l'autre, pendant qu'Ethan, ben, il essaie de s'enfuir un peu de l'emprise des Bakers, puis de leur folie. Mécaniquement, la grosse différence avec Resident Evil 7, c'est que le jeu il se joue en first person, tous les autres étant en third person. Puis ça, c'est comme un point de vue qui est vraiment intéressant dans le jeu d'horreur, parce que, à comparer avec le third person, la grosse différence, c'est qu'on voit pas tout autour de nous. Puis, on voit juste devant nous dans un compte, dans le fait. Puis ça, il l'utilise vraiment bien pour créer des moments d'horreur dans le jeu avec cette information sensorielle partielle-là du joueur. D'ailleurs, comme tu l'as bien mentionné tantôt, ils ont fait une version VR du jeu pour la PlayStation, puis ils ont basé leur marketing presque entier là-dessus. Il y avait il y avait plein de vidéos YouTube qui sont sorties justement là, des gros streamers ou des célébrités qui jouaient à Resident Evil avec le casque VR, puis avec les jumpscares qui arrivaient, tu les voyais capoter, pas mal tous au même moment d'ailleurs. Puis c'était assez efficace, puis drôle à regarder, puis on avait nous la distanciation de voir quelqu'un, et puis de pas en train de le vivre. Fait que c'était comme rigolo pour nous, mais on voyait l'excitation de peut-être essayer cette expérience-là pour nous-mêmes.
Moi, je l'ai vécu, donc je l'ai joué en VR.
Et
ça fonctionne super bien.
Ouais, c'est bien fait. Vraiment bien fait. Ensuite, on regarde quand même un gameplay qui est comme similaire aux autres Resident Evil, c'est-à-dire que c'est un shooter quand même, où est-ce que t'as un bon arsenal d'armes, t'as un pistolet, un shotgun, un machine gun. Mais ce qui revient dans le set, qui n'existait pas trop dans les derniers, puis quand je dis les derniers, je pense aux 4, 5, 6, c'est qu'il y a comme une économie de balles qui est vraiment importante dans le set, que j'avais pas vraiment, que ça faisait longtemps que j'avais pas senti depuis le 4, 5, 6. Je dis pas que c'est un jeu qui est très difficile, loin de là, mais je dis quand même que il y avait des moments dans le jeu où est-ce que je me sentais, comme s'il fallait que je pense à quel gun je voulais utiliser pour quel monstre, justement, parce que je savais que je manquerais de balles peut-être un petit peu plus loin après ça, puis tuer du monde au pistolet, c'est jamais aussi efficace que tuer du monde au shotgun. fait que avec tout ça, on amène un peu un sentiment d'impuissance, puis ici on peut parler un peu des réactions à la peur. Donc il y a 3 réactions à la peur, c'est le freeze, fight or flight, et par rapport au 4-5-6 qui était beaucoup plus axé sur le fight, ici on vient peut-être plus vers le freeze puis le flight, comme le faisait le premier, le 2 et le 3 aussi, je dirais. Fait que je trouve qu'on revient un peu aux racines de l'expérience de Resident Evil avec le 7e, ce qui m'a fait vraiment triper. Le jeu aussi a des puzzles qui sont corrects, mais qui mènent à la découverte de cassettes vidéo. Puis ces cassettes vidéo-là, ils ont comme mécanisé ces cassettes vidéo-là, où est-ce que quand tu les mets dans une télé, tu te retrouves à jouer le protagoniste, entre guillemets, si on veut, de la cassette vidéo, qui sont essentiellement des meurtres filmés par la famille des Baker. Fait que ça aussi, c'est assez spécial. On n'avait jamais vraiment vu ça dans un des Resident Evil, où est-ce que soudainement tu changeais de personnage pour prendre le point de vue de quelqu'un en train de se faire tuer dans une vidéocassette. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant aussi. Puis c'est là que je ferais la réflexion peut-être, puis je serais intéressé de voir ce que vous en pensez, tablé. Que Je dirais que c'est le jeu, le Resident Evil qui a été le plus inspiré du cinéma slash télévision de toutes les autres. Il y a la mécanique de la vidéocassette qui est quand même assez facile à voir le parallèle, mais il y a aussi beaucoup de références à des films d'horreur. Par exemple, il y a un moment dans le jeu où on se retrouve pris dans une genre d'étable, puis j'avais vraiment le feeling, un peu comme on a dans Hannibal, où est-ce que, dans le fond, ils mettaient des corps vivants à faire manger par les cochons, là. Fait que voilà, en fait, je serais intéressé de voir ce que vous pensez de ça, là, comme quoi que le Resident Evil, ce serait un des plus, entre guillemets, cinématographiques des Resident Evil.
Oui, ben je vais en profiter, ouais, je vais sauter sur l'occasion pour partager ma réflexion là-dessus. Première chose que je me suis posé comme question, c'est quand je repense au premier opus de la série, vraiment Resident Evil 1 et 2, il me semblait que c'était plus cinématographique justement à cause qu'on avait un jeu de cadrage, caméra fixe et tout ça. Mm-hmm. Donc, inévitablement, ça nous amène à l'idée qu'il y a une présence de la caméra, qu'elle a été positionnée, qu'on travaille un hors-champ en conséquence et tout ça. Et à mon sens, c'est un petit peu plus cinématographique dans ce
cas-là. Oui, juste, c'était une manière aussi de restreindre le point de vue, en fait, au lieu de... Là, c'est restreint parce que c'est nous qui décident de quel côté on regarde ou non, mais on était toujours pris dans des plans déterminés à l'avance qui faisaient qu'on voyait pas où on allait ou on voyait pas ce qui nous entourait, ce qui était aussi une manière de restreindre le point de vue, de pas donner trop d'informations pour créer suspense. Dans le fond, le changement de point de vue sert encore un peu à la même chose, en fait.
Ouais, en fait, ben, vu qu'on revient aussi en first person, on pourrait dire que c'est presque un peu aussi dans cette optique-là que ça a été fait. Effectivement, c'est pas aussi efficace qu'une caméra fixe, mais on a quand même restreint le point de vue pour créer cet effet-là.
C'est une autre manière de faire. Le régime effrayant de la vision en troisième personne, tel qu'on le connaissait avec Resident Evil en 96, était évidemment très cinématographique. Sauf qu'à la base, Mikami, qui était le designer de Resident Evil 1, mm-hmm. souhaitait donc mettre le joueur dans une position de film d'horreur. Et la vision cinématographique, l'influence cinématographique qui reste déjà dans cette base-là, c'est-à-dire que c'est une mise en image et en son. Et on va la travailler en fonction soit d'un point de vue découpé ou soit d'un point de vue subjectif dans lequel on va devoir se déplacer.
Mais c'est, moi, je trouve qu'un des points qui fait que je crois qu'on est un petit peu moins dans un rapport cinématographique, c'est justement le rapport au hors-champ. On passe à la première personne, on a un hors-champ beaucoup plus large, beaucoup plus complexe à gérer. Et puis ça, à mon sens, c'est très proprement vidéoludique.
Ouais.
De ce point-là, j'ai l'impression qu'on a une petite distanciation d'avec le cinéma, quoique ça reste très photoréaliste, ça reste un environnement qui rappelle des films d'horreur très classiques, Massacre à tronçonneuse, on pourrait en parler longtemps. Mm-hmm. Mais à mon sens, il y a quand même un détachement du cinéma un petit peu, en tout cas au moins au niveau de l'expérience du joueur. Puis l'hors-champ est un jeu.
Le joueur devient plus ou moins son propre metteur en scène, en fait, parce que le hors-champ, il est pas dans le champ, c'est du hors-champ, mais il est toujours potentiellement dans le champ, tandis que dans les premiers Resident Evil, le hors-champ, tu y as jamais accès. Je veux dire, la caméra détermine tout le temps ce que tu vois. Mm-hmm.
Oui, mais le VR devrait nous éloigner de la vision cinématographique. On n'est plus dans un rapport au cinéma, dans un rapport de simulation, dans une réalité. Ouais. La seule chose, c'est que, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que plusieurs d'entre nous avons vécu enfermés dans une maison pendant une nuit à vouloir s'en sortir avec des monstres qui sont autour. Donc, c'est la compréhension qu'on a de tout ça. C'est une compréhension qui vient de la fiction et qui est largement réfléchie à partir de nos expériences cinématographiques. Sauf que Resident Evil 7 n'est plus dans un rapport au cinéma. On est dans un rapport vraiment à une mise en scène de l'horreur qui va tenter de plonger le joueur vraiment dans une expérience qui devient super terrifiante, avec évidemment les tropes qu'on connaît, c'est-à-dire faut qu'il y ait des monstres, faut qu'il y ait donc de la fuite, faut qu'il y ait des combats, faut avoir des armes. Et après, ben là, peut-être que ce qui est plus intéressant, c'est toute la vision vidéoludique, c'est-à-dire que pour moi, Christopher, moi je suis pas d'accord, c'est pas un shooter. Donc, le survival horror, c'est un jeu d'action et aventure. L'aventure a toujours pris le dessus un peu dans les premiers Resident Evil parce que, bon, les contrôles étaient pas parfaits, les tank controls étaient pas parfaits, le jeu de tir était impossible. Ce que Jean-Michel a vécu avec Resident Evil 4, ben, c'était vraiment la grande transition. On avait notre gun au laser, on pouvait viser parfaitement. Donc là, il y avait vraiment rapport au shooting, sauf que le survival horror est davantage basé sur l'aventure, basé sur le fait que, justement, je ne peux pas me lancer tête première avec un gros gun puis tuer tout le monde, c'est impossible. Mm-hmm. Donc là, il y a vraiment cette relation qui change énormément. Et qui nous ramène peut-être encore une fois donc dans nos expériences nostalgiques du passé, qui fait qu'aujourd'hui, on va encore une fois reparler du cinéma parce que c'est notre référence principale.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Mais je vais sauter sur un des commentaires que tu as dit. Évidemment, dans le Survivor Horror, on est plus dans un rapport à l'aventure, au puzzle, à la résolution de puzzle et tout ça. Ce que moi, j'ai trouvé assez absent du dernier opus de la série. Ce qui me ferait dire qu'on est peut-être plus du côté action-horreur, FPS, du type Condemn, avec un petit peu moins de shooting peut-être, mais que finalement, on a, bon, c'est soit un rapport d'équilibre entre ce paradigme de design qui est plus survival horror, aventure, puis avec un mélange qui est aussi très action, très horreur, et très plus FPS. Puis des fois, je trouve, en tout cas, moi personnellement, je trouve que l'amalgame n'était pas toujours si bien équilibré. En tout cas, du moins, je trouve qu'on penchait beaucoup plus en faveur de l'action ou du shooting. Et puis en ce sens-là, on prend encore un peu de la distance avec l'expérience plus cinématographique.
Il est assez court, le 7 ans. Je veux dire, je sais pas, Christophe, t'as pris combien de temps pour jouer, moi?
Peut-être 3, j'ai 4 heures. 5 heures.
Okay. Moi, j'ai 10 heures, 36 minutes et 52 secondes. Du jeu.
C'est pour ça que t'as manqué de munitions, probablement.
Probablement. C'est possible. Moi, je me promène pas dans les raccoins dans ces jeux-là. Là. Okay. Déjà, en fait, je trouve que c'était une expérience qui était pas mal plus terrifiante que, mettons, le 4, le 5, le 6, où est-ce que, tu sais, c'était un peu plus un run and gun. Là, je sentais vraiment dans mes tripes, là, que comme fallait pas que je reste où est-ce que j'étais, là. Mm-hmm. Fait que moi, je gagnais à travers. Puis j'ai même vu des gens, rapidement, qui l'ont fait en speedrun. Ça se fait en 1 heure et 20 minutes, je pense.
Mais l'expérience, c'est ça qui est assez fou. Je veux dire, logiquement, quand tu rentres dans Resident Evil 7 ou 5 ou 4 ou 6, dans une expérience effrayante, si tu ne veux pas vivre la peur, ben, je veux dire, partir à courir, le faire en speedrun, c'est pas vivre.
Non, clairement. Mais ces gens-là, ils commencent en le vivant comme la peur, puis ensuite, ça devient rapidement plus une job où est-ce que c'est du surpassement. Ils changent la manière de jouer.
Parce qu'il y a un peu de furtivité donc, dans le jeu, ce qui devient super intéressant.
Pas ça, à mon avis.
J'ai trouvé les moments les plus forts étaient ces moments-là.
Oui. Entre autres, quand on joue Mia et qu'il doit se sauver de la mère, Marguerite. Mm-hmm. Je trouvais que c'était une des portions du jeu qui était le plus intéressante parce que justement, on avait une approche stealth à privilégier. On devait se cacher. Il y avait des super beaux effets de centering, c'est-à-dire de laisser des ouvertures dans les murs pour qu'on puisse regarder la mère se déplacer avec les jeux d'éclairage. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement riche. Puis j'ai un peu comme déçu de pas avoir vu ça plus longtemps, cette portion stealth, furtive. Je sais pas si vous avez ressenti ça un peu, mais...
En VR, ça fonctionne super bien parce que le rapport en VR, ton point d'interaction, tout à coup, devient l'espace du jeu. Donc, ce que je suis, quand je regarde par terre, je vois pas mon salon, je vois le plancher de la galerie sur lequel je suis penché logiquement. Et quand la porte donc il y a une scène où on se cache sur une galerie derrière, la mère vient tenter de nous trouver. Tu fermes la porte, tu te caches, tu le regardes par la fenêtre et évidemment, elle va venir dehors pour voir. La porte s'ouvre vers toi. Et là, pendant, t'écoutes, et en plus en VR, maintenant, ils peuvent contrôler la manière dont t'écoutes et non plus. Alors, t'espères seulement qu'elle viendra pas vérifier derrière la porte. Évidemment, non. Mais ce moment-là, il est superbe et c'est vraiment dans ces petits détails que le VR prend son sens. Parce que sinon, un shooter, qu'on soit en VR ou qu'on soit, le cadre reste le même. Il s'agit de tirer, bien que maintenant, avec le VR, c'était le casque qui servait de mire. Donc, on avait une autre manière de jouer. Mais l'expérience de furtivité, le VR, extrapole ou fait grandir ce feeling-là qui est écœurant.
puis, on s'était parlé hors d'onde un petit peu, Bernard. Je pense que ce serait l'occasion. Ce serait cool que tu nous commentes un peu les effets contre-immersifs du VR qui, finalement, sont bien... Le VR semble vraiment ajouter à l'expérience, mais tu revais plein de points ou des petits manquements qui cassaient l'immersion.
Il n'y a pas de corps, je veux dire. C'est le grand rapport à la réalité virtuelle. C'est le rapport au corps. Logiquement, je me plonge dans l'essuyer de quelqu'un, mais dans Resident Evil 7, on est encore avec des mains qui sont des accessoires parce qu'elles sont coupées dans l'avant-bras. Je ne vois pas mon corps, donc quand je reçois des coups, je ne suis pas présent. Quand je me regarde, évidemment, j'ai mon point de vue qui flotte, je ne me vois pas courir. Donc, il y a tout un truc d'horreur. Donc, on est vraiment dans la terreur et dans la frayeur là, dans Resident Evil 7, mais dans l'horreur. C'est l'horreur visuelle de ce qu'on nous montre, c'est-à-dire quand on s'attaque à Jack, c'est son corps qui va exploser, puis c'est très viscéral, c'est très gore. Mais comme moi, joueur, on disait tantôt incessamment, on pourra se coller des petits stickers sur la peau pour avoir des vibrations, pour pouvoir sentir cette relation au corps. Là, ça deviendra trippant entre la porn puis l'horreur. Moi, je préfère vivre l'horreur par rapport au corps, qu'on pourra avoir sur l'ensemble du corps, puisque là, il y avait vraiment une relation un peu plus kinesthétique.
Il y a des technologies qui commencent à explorer.
Ouais, j'ai
vu, il y avait comme un gilet en fait par balle que tu mets, mais quand tu reçois une balle dans un shooter.
Ah, à l'époque, ça fait très longtemps.
Mais ils commencent à le perfectionner, par exemple, puis ça commence à être une technologie qui est abordable aussi. C'est un peu aussi que le VR, là, il y a genre un tapis roulant en 360 aussi que tu peux acheter, puis là, t'as l'impression de marcher en VR. Bon, puis là, ça revient un peu à ce que tu disais aussi, qu'il peut peut-être avoir un effet de distanciation avec ça, qui est comme contre-immersif. Mais en fait, toi qui l'as joué en VR, Bernard, t'es quand même, ton immersion était bonne, t'avais l'impression, tu filais dedans, il y avait pas de...
Oui, parce qu'on sait que là, pour l'expérience proposée par Resident Evil 7, on a ce fameux saut d'angle, donc on n'est pas... Donc le mouvement est continu, mais quand on veut tourner notre regard, quand on utilise notre thumbstick, notre petit bâtonnet de droite, bref, excusez-moi l'anglicisme, le thumbstick, ben ça te saute de 30 degrés, ben tu peux le faire sauter de 45 ou tu peux faire sauter 90 degrés. À la première expérience qu'on a de la VR, ben, je veux dire, en tout cas, en PlayStation VR, ça saute aux yeux. Tu te dis, ben non, ça marchera pas. Et pourtant, ça fonctionne bien, justement, parce qu'ils voulaient éviter cette fameuse motion sickness que les gens ont, encore une fois, anglicisme. Ils ont dit ça comment? Il y a un terme en français.
Mal du mouvement.
Ouais.
Non, il y a un terme que je n'ai pas, là, mais bref, on est très anglais, excusez-nous. Mais bref, donc ça évite d'avoir toujours avoir le vertige, se tourner. Et ça fonctionne bien. Ça me ramène dans une expérience très vidéoludique qui me permet de pouvoir m'immerger dans un rapport aux jeux vidéo et non pas dans une pure expérience virtuelle.
J'aimerais bien te questionner sur justement ces effets de virage qui sont quand même assez importants. En tout cas, moi, dans mon expérience que j'ai fait quand je voyais les molds, je ne sais pas comment les nommer, moi, je les évitais carrément. Je partais à courir, j'ouvrais une porte et je la refermais derrière moi. Et donc, ça faisait tout le temps, ça exigeait de moi un virage à 180 degrés. Et je ne sais pas si toi, en VR, est-ce que tu avais à gérer ce 180 degrés-là assez radical? Est-ce que ça dérangeait? Est-ce que ça...
Ben moi, je l'ai joué à 30 degrés, donc il y avait quand même une certaine dextérité à avoir. Mais évidemment, ça rajoute à l'expérience. Quand je dis, moi, je suis un joueur qui aime ça avoir peur. Donc, je suis un très mauvais joueur, déjà en partant en général, mais c'est pour ça que je suis très bon en jeux vidéo d'horreur, parce que ça me permet de vivre des affaires que les bons joueurs ne vivent pas. Mais oui, il y avait ce rapport-là de stress sur ben, comment je fais pour m'en sortir. Souvenez-vous aussi, donc, quand on tombe dans l'arène avec Jack, et l'arène, c'est pas très... C'est, on est dans un espace assez restreint. Ben là, il faut vraiment courir en rond, il faut se retourner, jusqu'à temps qu'on finisse par se rendre compte que nos armes ne peuvent pas battre Jack, on gâchera pas le plaisir du joueur, mais il y a quelque chose à faire jusqu'à temps qu'on le trouve, cette chose-là, ben c'est de tourner en rond, c'est de se faire tuer par Jack. Donc là, il y a un rapport de dextérité, d'exécution qui, encore une fois, fonctionne bien.
Il n'y a pas de mot de coup à force de se revirer.
Non. Okay. Mais je dirais, moi, c'est drôle, j'allais me rechercher une vieille chaise qui est sur pilolis, donc, qui permet de tourner rapidement, qui tourne sur elle-même, parce qu'en VR, c'est plus facile de faire ça que de devoir tourner son corps à chaque fois.
Les grincements sonores aussi de la chaise ajoutés à l'expérience aussi.
Voilà, ou le chien qui saute derrière toi pendant qu'il est en train de battre contre un boss.
Sylvain, t'avais l'air d'avoir quelque chose.
Oui, mais il n'y a pas des. Parce que moi, j'ai pas joué, mais j'ai vu un peu des let's play, mais il n'y a pas des éléments qui brisent un peu l'immersion. Comme j'ai remarqué, quand tu te fais blesser, il y a du sang qui te revole dans l'image, qui reste dans l'image un peu pour montrer ta vie, qui, en tout cas, le truc habituel pour ne.
Ça me semble tellement conventionné dans un rapport d'expérience à la première personne d'avoir ces espèces de frame rouge, ces effets de sang dans une fausse lentille.
Mais en VR, ça doit être bizarre parce qu'il n'y a pas de display, en fait, dans le jeu.
Il y a des displays.
Quand tu regardes dans ton inventaire et tout, il y en a un peu, mais en général...
Oui, mais quand je dis que c'est des conventions, ça. Encore une fois, je me dis, est-ce qu'il y en avait dans le VR? Je ne me souviens pas si on avait ces trucs-là. Probablement aussi. Mais encore une fois, ça reste de l'expérience vidéoludique On est tous habitués. Donc,
j'ajouterais peut-être aussi, par exemple, est-ce que ce serait possible que ce soit aussi une manière de distancer le joueur, justement, comme vu que la terreur et l'horreur peut grandir assez rapidement dans ce genre de jeu-là. À un moment donné, se rappeler qu'on est en train de jouer à un jeu vidéo. Je suis en train de manger du dommage, je suis en train de jouer à un jeu vidéo, c'est correct. Puis là, tu te replaces pour te remettre un peu dans cette boucle.
Il y a une fonction ludique.
C'est ce qu'on nous vend de la VR. Tout ce qu'on nous montre sur Internet et les grands sites web, c'est des gens qui ont vraiment la chienne de jouer à des jeux vidéo en VR. C'est ça qu'on veut vendre comme expérience. Ben oui, ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne à ce point-là? Ben, je suis pas si sûr.
À quel
que
point
tu es
capable de suspendre ton disbelief?
À quel point un joueur qui est habitué à ces expériences-là peut avoir le maîtrise? Je peux comprendre que la grand-mère ou que quelqu'un qui a vraiment pas beaucoup d'expérience avec ça peut se sentir, avoir une sensation de présence dans l'univers qui lui permet de pas faire la différence. Mais on ne revient pas à la caverne de Platon pour dire, ben voilà, ceci est le réel. Je veux dire, je m'excuse, c'est pas possible. Je sais que je suis assis dans mon salon, j'ai une manette dans les mains, et on peut me faire n'importe quoi. Je suis immergé, certes, mais je veux dire, je prends pas le réel pour de la fiction et la fiction pour le réel. Et encore une fois, tout ça est une mise en scène, une mise en jeu, et elle fonctionne super bien, mais ça reste une mise en jeu.
Mm-hmm. Moi, ça va vous tout vraiment pas déranger de devoir gérer cette interface ou cet effet un peu contre-intuitif d'avoir du... Mais c'est vraiment, là, comme je disais, la convention qui prend le dessus sur le rapport à la fiction. Puis moi, je suis arrivé à le diégétiser ou à le fictionnaliser assez facilement.
Mais avec l'écran de télévision, en fait, c'est plus évident parce que c'est justement, ça s'imprime sur une lentille, tandis que là, t'as pas l'impression d'avoir une lentille, j'imagine, quand t'es dans...
Il n'y a pas de lentille non plus en jeu vidéo, Sylvain.
Non, je sais, mais c'est...
une caméra virtuelle. On est toujours en train de penser ceci comme étant une caméra virtuelle parce que j'ai un cadre.
Oui, mais t'as un écran de télévision.
Oui, c'est pour ça, mais tu sais, moi, dans ce rapport de VR, la théorie que tout le monde avoir, évidemment, c'est que dans un rapport de jeu vidéo, tu as un point de vue. Donc, la troisième personne, c'est ce qu'on avait au début de Resident Evil 1, donc en 96, tu avais un point de vue qui te permettait d'avoir ton point d'action à l'intérieur du cadre. Donc, notre personnage joueur est le point d'action à l'intérieur d'un cadre. Avec la first person, tout à coup, ton point d'action et ton point de vue se chevauchent, puisque là, c'est ta vision qui, maintenant, est semblable, mais tu as toujours ton cadre dans la télé, parce que ton point d'interaction est à l'extérieur du cadre. Avec le VR, tout à coup, on a le point d'action, on a le point de vision, on a le point d'audition, puis on a le point d'interaction qui se chevauche et qui nous plonge au cœur de l'univers. Et ça, évidemment, là, tout à coup, ben, je veux dire, je suis plus dans un rapport de cinéma, je suis dans un rapport de réalité virtuelle, mais je le pense plus en cinéma, c'est moi comme corps dans un lieu qui est en train de vivre quelque chose. Mais c'est quand même assez fou de savoir que on ramène cette vision de lentille, de
oui,
perception.
Oui, en fait, je disais ça justement parce qu'en VR, il n'y avait plus de lentille et que c'est un effet qui a l'air de s'imprimer sur une lentille de caméra, sur un écran, alors que là, t'en as plus, justement.
Mais comme je dis, encore une fois, je pense que le joueur n'est pas...
Oui, non, je sais que c'est une convention, ça n'a pas de problème, je me demandais juste l'effet que ça pouvait faire d'avoir du sang dans tes yeux.
Mais comme je dis, j'ai même pas de souvenir s'il y en a.
Ah, peut-être qu'il n'y en a pas en VR.
C'est une bonne question.
Parce que moi, ça m'a pas frappé.
Oui, puis... veut pas ces effets-là, ça reste du sang. Il y a quand même un petit effet corporalisant qui nous donne un corps, qui donne du corps au personnage. Puis je me demandais justement, c'est sûr que s'il l'a pas en VR, puis il y a déjà un sentiment de corps semi-présent ou absent, déjà moi, je peux, ça peut causer problème. Et si en plus, on n'a pas cet effet de sang-là dans la lentille, je présume que ça l'aide pas à ramener l'idée d'un corps virtuel qui est présent dans l'environnement.
Mm-hmm. Non, c'est ça, c'est sûr.
Si on revient peut-être même au genre de l'horreur elle-même, là, est-ce qu'on pourrait peut-être dire que tous les aspects un peu plus gore qui étaient dans le set étaient un peu moins efficaces, justement, parce qu'on n'avait pas ce rapport viscéral-là de la troisième personne par rapport au corps, justement, qui était présenté?
Mais il y a son corps, il y a le corps des autres.
Ouais.
Dans un jeu vidéo d'horreur, c'est cette relation qu'on peut avoir sur nous, mais sur ce qu'on fait aux autres. Et je pense qu'avec la réalité virtuelle, ben, je veux dire, c'est plus là, quand on n'aura pas cette incarnation totale de son propre corps, c'est ce qui se passe sur les autres. Et puis, bon, on est quand même rendu dans un photoréalisme assez fort qui fait que, ben, je veux dire, quand je tue les humains, du moins, parce que les mondes ne sont pas humains, mais quand je m'attaque à Jack ou je m'attaque à Lucas ou je m'attaque à Marguerite, on est dans un rapport très, très corporel de l'autre.
Oui, ça c'est évident, c'est assez viscéral comme expérience. Puis moi je suis un fan de la première personne, j'ai fait mon mémoire là-dessus sur les jeux d'horreur en première personne, puis c'est ça, ce rapport de proximité là très fort qui à mon sens un plus qui va chercher de la viscéralité dans le jeu, qui nous amène de la proximité, de la présence avec les menaces. Ça, je trouve ça, c'est très riche. Et un autre point qui est vraiment intéressant avec la vision à la première personne, c'est qu'on a une périphérie qui est très réduite. on a une vision périphérique très réduite, et c'est bon, ça, c'est là que ça ramène encore toute la question du hors-champ. Puis moi, je trouvais que dans l'expérience qui était vraiment agréable, c'était de gérer le hors-champ. C'était, tu sais, par exemple, pour moi qui fuis les molds, quand je les vois apparaître dans l'environnement, que là, je m'apprête à soit les éviter ou à les confronter, puis que je prends la décision de fuir, et là, je m'en revire, et là, je sais qu'ils sont dans mon dos.
T'es entends.
Et je les entends, mm-hmm. et j'ai aucune idée de leur vitesse de déplacement. J'ai une idée approximative, mais vu qu'ils sont non visualisé, c'est quand même assez prenant. Et là, quand je vois une porte, c'est ma survie qui est au bout des doigts. Et là, je suis comme « Wow, là, ça me prend la porte ». Et ce que j'ai trouvé vraiment cool par rapport au dispositif des portes, c'est que pour une fois dans un jeu vidéo d'horreur, en tout cas, au moins à la première personne, j'ai senti que c'était important et même très utile de refermer les portes. Et ça, j'ai trouvé que dans plusieurs jeux d'horreur, la première personne, je pense à Outlast, Amnesia, c'est pas si important de refermer les portes, même si c'est possible. Alors que là, j'ai trouvé que dans Resident Evil 7, c'était vraiment important et avantageux de refermer les portes. Et ça, j'ai trouvé ça, c'était une belle dynamique horrifique qui se mettait en place là. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on joue un flashback avec Mia et on retourne sur le bateau où tout a commencé, et là, ce qui est vraiment le fun, c'est que les portes deviennent doubles. Alors là, pour moi qui avais ma stratégie avec les portes pour fuir des molds, là, dans ce niveau-là, j'avais deux portes à gérer dans ma fuite. Là, ça, j'ai trouvé que c'est intéressant, ça l'ajoutait, puis en plus, l'espace est extrêmement restreint, donc c'est encore plus important de gérer la porte de bonne façon, parce que là, ils peuvent nous suivre vraiment plus longtemps. Puis là, juste ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Pour une fois, refermer une porte dans un jeu, ça a un impact.
Mais l'ouvrir aussi, en fait, ça avait un impact. C'est moi, quand tu l'ouvrais, il y avait comme un petite hésitation.
Un entre-deux.
Construisez l'anticipation d'ouvrir la porte pour
ça,
savoir ce que
dans Resident Evil, le
les écrans de chargement dans Resident Evil qui étaient inspirés de ce
Oui, oui, oui. Ah, bien dit.
Ben,
bien
je veux
dit,
dire,
oui.
C'était ça. Le passage d'une porte à l'autre était toujours tout qu'est-ce qu'il va y avoir derrière. Oui. En 96, c'est un écran de chargement. Là, maintenant, en 2017, ben, je veux dire, c'est vraiment une vraie porte. Mm-hmm. Et encore une fois, ce qui est drôle dans un jeu d'horreur, c'est comment je joue le jeu. Moi, dans Atlas, je fermais toutes les portes aussi quand c'était possible. Ben, j'avais la chienne. Mm-hmm. Donc, je me disais,
mais c'était inutile au final. C'est ça qui est un peu dommage.
Moi, dans ma vision des choses, si c'est une utile au niveau du gameplay. Dans mon expérience, moi, ça me donne sécurité, donc tout à coup, j'ai un rapport différent. Dans Fatal Frame, c'est des fantômes, t'as beau fermer les portes, ils passent à travers. Donc, quand on a des monstres qui sont corporels, ben, à un moment donné, hop, il y a quelque chose qui devient un rapport d'immersion, un rapport de je me plonge, je joue le rôle, finalement. Je veux dire,
oui, oui. Mais je veux dire, tu sais, moi, dans Atlas, quand j'ai compris qu'il n'y avait aucun avantage à refermer les portes, même qu'il y en avait un avantage à les laisser ouvertes parce que ça me donnait une mémoire de mon environnement, de savoir, OK, j'ai déjà été là, les portes étaient déjà ouvertes. Je me rends compte qu'il n'y a aucun avantage à les refermer. Je ne rentre plus dans le rôle du personnage. Je prends l'aspect du joueur qui tire avantage du système. Et puis là, j'ai vraiment senti que dans Resident Evil, il y avait vraiment un avantage à les refermer. En tout cas, moi, je trouvais que c'est un petit plus qui ajoutait. Et puis, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant qu'ils implémentent ça de cette façon-là.
C'est intéressant. Ouais. J'avais vraiment pas pensé, en fait, à la mécanique un peu de la porte, à part de l'ouvrir, la refermer, en fait. Je n'avais jamais pas
pensé. Non, mais les portes sont toujours là. Il faut aller chercher les fameuses emblèmes pour pouvoir ouvrir les portes, c'est ce qui nous amène à se promener. Mm-hmm. Quand on ouvre une porte, donc on est encore une fois, et c'est un peu c'est peut-être ce qui est super bien, qui nous ramène à la racine du survival horror. Ben, je veux dire, on retourne dans une maison comme on était dans le Spencer Mansion, comme on était dans Deserto, dans Alone in the Dark. Donc c'est vraiment l'idée de la maison hantée, et c'est d'ouvrir des portes qui vont nous mener ailleurs. Genre, on commence dans Resident Evil 7 au début. Là, il faut ouvrir la porte pour nous ouvrir la maison. Après ça, on va arriver au deuxième étage. Il va falloir encore ouvrir des portes. Souvenez-vous, donc, à un moment donné, je pense que c'est la mitraillette, elle est cachée dans une pièce où tu as besoin d'avoir la clé du corbeau pour pouvoir ouvrir cette porte-là. Pour trouver le truc. Ben écoute, tu la vois à travers la fenêtre, tu vois l'arme à travers la fenêtre, tu sais que tu vas avoir quelque chose à avoir, tu regardes donc la clé, tu sais, et quand tu l'as, c'est comme la première affaire que tu veux faire, c'est que tu retournes en arrière. Et ça, pour moi, c'est du Resident Evil. Oui. J'ai pas besoin d'avoir un grand espace comme on avait dans le 4, dans le 5, dans le 6. Je m'en fous. Mm-hmm. Mettez-moi dans un lieu fermé, assez large. Et là, ben, je veux dire, c'est un terrain de jeu. J'ai-tu peur? Ben oui, c'est une maison hantée. Une maison hantée, elle est très, très large. Et après ça, ben, je veux dire, voilà.
Mais as-tu pas trouvé que... en tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de labyrinthe dans cet espace-là. J'ai trouvé que c'était très facile de m'orienter, de retrouver mon chemin. Et en plus, on nous donne des cartes hyper détaillées que j'ai jamais ouvertes. j'avais aucun besoin. J'étais capable de mentalement cartographier l'espace, puis j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu l'aspect labyrinthe qui pourrait complexifier la navigation, l'exploration. Je sais pas si tu as ressenti ça.
Non, parce qu'encore une fois, dans les visions des Resident Evil, à part, donc, si on rentre dans le 2, dans le 3, on ouvrait tranquillement l'espace. Ben, je veux dire, là, on était beaucoup plus labyrinthique, mais je me souviens toi, dans le premier, on reste quand même dans le manoir, on sort dans la cour, on tombe dans un laboratoire, donc on reste quand même à proximité, et ça, ben, je veux dire, c'est le lieu qui devient labyrinthique, parce qu'il faut que tu retournes en arrière, mm-hmm.
Ça me semblait plus complexe dans les premiers de la série de Resident Evil,
parce qu'on est habitué aussi.
Il y a peut-être un peu un rapport de...
On se développe des
stratégies.
Des stratégies...
Le manoir en tant que tel était... C'est parce qu'on sortait à l'extérieur du manoir beaucoup dans Resident Evil mm-hmm. 1, mais tant qu'on était à l'intérieur du manoir, il me semble que le lieu en tant que tel était très facile à se repérer parce qu'on repassait tout le temps de toute façon sur mm-hmm. les mêmes pièces. C'était pas si grand que ça non plus de mémoire. Non. Mais je me demandais, en fait, vu que j'ai pas joué 7, il y a l'air d'avoir une grosse influence de Outlast, en fait, que vous avez tout parlé au niveau de la première personne, mais l'utilisation de la caméra aussi, c'est...
Oui, évidemment, mais on l'a pas, cette caméra-là, dans Resident Evil 7. On médiatise pas le regard du personnage à travers une caméra. Bon, écoute, ça a des plus, ça a des moins. Moi, j'ai trouvé que dans Outlast, c'était extrêmement puissant d'avoir cette caméra-là. Et puis, à un certain moment, cette caméra-là se fissure dans Outlast. Et là, ça nous met une belle fissure dans notre perspective. Et là, ça ajoute un espèce d'effet de cache sur notre vision. Moi, j'ai trouvé ça...
On la perd, à un moment donné, en plus.
On la perd. Et quand on la perd... Et moi, c'est ça un point que je voudrais apporter. C'est, dans la tradition des jeux d'horreur à la première personne, on est dans ce que Dan Pitchbeck appelle des FPS décroissants, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de capacités, puis plus on avance dans le jeu, plus on décroît. Notre personnage dans Outlast, par exemple, va perdre sa caméra, elle va se fissurer, on arrive vers la fin du jeu, pas de spoiler, mais notre personnage perd la mobilité, devient plus lent, il est blessé et tout ça, alors que dans le dernier opus de Resident Evil, on est vraiment dans un FPS de surcroissance, de croissance accrue. Puis moi, ça m'a dérangé, parce qu'à un certain moment, j'étais rendu tellement puissant que c'était le challenge ou le défi se distillait à sa plus simple expression. Puis moi j'étais un explorer, moi j'étais un joueur qui explore beaucoup. Le jeu m'a pris 11 heures, j'ai pas couru dedans mm-hmm. en 2 heures. Et en tant qu'explorer, j'ai tout découvert. J'avais tous les effets de seringue pour augmenter notre vitesse, recharger notre arme plus vite. On trouve des petits coins, des petites pièces mystérieuses qui nous permettent d'ouvrir des cages à oiseaux. Puis dans ces trucs-là, il y a des power-ups, comme on pourrait dire. Ben moi j'avais découvert tout ça parce que je me promenais partout. Alors c'est arrivé très rapidement que j'avais un personnage qui était plus fort, que j'avais des munitions en abondance incroyable. Et moi, en quelque part, ça m'a dérangé, ça, parce que c'était rendu trop simple. Puis les maîtres de niveau aussi, dans ce sens-là, devenaient simples à éliminer aussi. Ça m'a dérangé un petit peu. Je sais pas si...
C'est plus un rapport d'expérience en ce moment-là, parce qu'encore une fois, le dernier monstre est d'une facilité...
Ça, c'est vrai,
désagréable. Ridicule. Désagréable.
Ouais, ouais. À un moment donné, tu te dis, je ne peux pas. Je disais à Hugo, donc plus tôt, dans Resident Evil 2, William Birkin se transforme aussi dans un monstre qui ressemble à Evelyn à la fin. Donc, on est dans le train dans Resident Evil 2, il s'avance, et très rapidement, ils vont faire exploser le train, puis le jeu finit. On a un peu ce truc-là dans le set. Tout à coup, bon, il s'avance, ça prend 2-3 essais pour se rendre compte qu'on est juste tiré dessus, on se fait foutre en dehors de la maison, on tombe par terre, tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire pour battre ce gigantesque monstre tentaculaire, et encore une fois, non, mon Dieu, encore un monstre tentaculaire, on est-tu tanné de ces monstres tentaculaires? Arrêtez de nous mettre, plus il y a de tentacules, plus logiquement vous allez devoir en tuer 6-7, donc ça va être un peu plus long, et là, ça prend 2 coups de revolver spécial qu'on vient de nous donner. Pour voir arriver donc la gang, et puis c'est on part en hélicoptère encore, come on!
C'est drôle à quel point il y avait comme quelque part dans les premiers Resident Evil, il y avait comme un souci en fait de garder la diégèse cohérente.
Ouais, ouais.
Ok, t'es un zombie à cause qu'il y avait comme un virus, etc. Umbrella Corp, puis tout ça, tu sais. Puis là, au fur et à mesure que ça va, le virus il s'est muté, puis là, mettons dans le 4, on est rendu. Si je me rappelle bien, c'est comme dans l'Amérique du Sud, ou c'est peut-être le 5.
Ouais, je pense que
c'est le 4.
En Espagne, je
pense. Ouais, c'est ça, en Espagne.
Oui, dans un pays...
latin.
Hispanophone.
Effectivement, puis là, plus que ça va, j'ai l'impression qu'on rentre un peu plus dans l'ésotérique maintenant. Là, on est rendu dans les esprits.
Attends, mais je veux dire, dans Resident Evil 0, il y avait donc ce qu'on appelait les humanoïdes sensus. Donc, le virus avait des sensus et était capable de se transformer en humain. Ben, les Molded, pour moi, c'est aussi une vision de ces humanoïdes, des humanoïdes leech. ces sangsues qui étaient très dures à tuer parce que t'avais beau tirer dessus, là, ça tuait quelques sangsues, puis la personne, le monstre se régénérait. Il fallait les mettre en feu. Quelque part, on a toujours un peu ça dans Resident Evil, cette vision un peu fantastique. On reste dans l'imaginaire du virus, on reste dans l'imaginaire zombiesque, mais on
a... On rentre dans le mind control maintenant.
Ouais, on a quand même ouvert... Derrière l'Umbrella Corporation, c'est bien ça. Je veux dire, c'est un contrôle total. Et là, bon, les BOW, les Bio-Organic Weapons, je veux dire, ben, quelque part, c'est un peu ce qu'est Evelyn, mais dans un rapport de force, c'est-à-dire... comment il s'appelle? Mesmer, ou celui qui est capable de nous contrôler l'esprit.
Oui, Mesmer,
je sais pourquoi ça n'existerait pas dans une fiction où tout à coup, on veut vraiment créer des armes.
Oui. Ça existe, là, le livre The Men Who Stare at Goats en fait un témoignage assez exceptionnel. Là. Je veux dire, c'est pas surprenant que Umbrella aussi débile qu'il peut sembler, parce que dans le deuxième, il y a quand même Tyrant, qui est pas vraiment compréhensible dans le tu sais, c'est la biomécanique un peu à l'extérieur du cinéma d'horreur. Fait que non, c'est inévitable.
C'est correct. Oh, oui, ça on laisse aller.
Ça fonctionne là. Ben dans les films, il y a pas un moment où elle lance des boules de feu aussi.
Films, Alice... elle a des pouvoirs des fois elle les a pas, mais tu sais jamais c'est quoi la différence, parce qu'elle a tout le temps les mêmes pouvoirs, peu importe si elle les a ou elle les a pas. Il y a aucune cohérence à ce niveau-là. Mais oui, à un moment donné, elle contrôle des choses avec
le clone n'est peut-être pas toujours en train d'avoir les mêmes pouvoirs, vu que c'est pas la même Alice.
Ouais, mais c'est un peut-être... clone, puis là il est contaminé, puis là il est plus contaminé. Ouais, faut pas chercher la cohérence.
Voilà. Je pense que c'est pire dans les films que dans les
films. Au niveau de la cohérence, oui, probablement. Oui.
Ouais. Tu peux t'en parler dans ton article, Sylvain, donc l'idée
c'est
finalement.
Non,
c'est important. On parle de vision transmédiatique. Ben, quelque part, on le disait tantôt, Alice n'existe pas dans les jeux. Dans les films, on a repris donc, des petits clins d'œil. Encore une fois, on parlait du Laker qui débarque, des personnages de Léon qui débarquent très rapidement. Donc, il y a quand même une certaine non-cohérence dans cette vision très, très globale de créer une...
Mais dans les films, en fait, les jeux sont une base de données, puis à partir de ça, on fait qu'est-ce qu'on veut.
Voilà.
Puis, ça sert à rien d'autre, c'est ça qu'il y a des clins d'œil, puis en général, c'est souvent pour détourner un peu les jeux, comme dans le cas de Léon, justement, qui arrive dans Resident Evil Retribution. Dans Resident Evil 4, Léon, il vient faire une mission, vient sauver la fille du président, si je me rappelle bien.
Mm-hmm.
Donc là, dans le film, il s'en vient sauver Alice, mais c'est Alice qui finit par le sauver. Donc il y a peut-être 5 minutes de temps d'écran à lui ou qui tire sur du monde, puis c'est pas intéressant. Fait que les films, en fait, s'emparent des jeux pour imposer un nouvel univers qui a absolument rien à voir avec les jeux, puis qu'il est autre.
On construit des mondes plutôt. Donc,
oui, c'est ça, on construit des mondes.
Vraiment cette idée de construire des univers. Après ça, ben, je veux dire, free for all, venez-vous-en, et puis voilà.
Oui.
Question comme ça, dans ce free for all de référence cinématographique, évidemment, Massacre à tronçonneuse qui ressort de façon assez importante. Je voulais vous poser la question parce que moi, ça a vraiment fonctionné, ce jeu sur les attentes avec le policier. Moi, quand j'ai vu le policier arriver, tout de suite, je me suis méfié à cause du remake de Resident Evil en 2006 ou 2003, je suis pas sûr exactement, que le policier est dans le coup. Alors là, quand je le vois arriver, le policier dans le jeu, moi, en tout cas, j'étais très sceptique du fait qu'il allait m'aider. Je sais pas si...
Oui, je me rappelle.
Est-ce que ce jeu sur les attentes a fonctionné?
Oui, mais en plus, je sais pas si c'était dans le voice acting ou si c'était voulu, mais j'avais l'impression qu'il y avait comme une hésitation aussi du point de vue du policier. Mm-hmm. La manière qu'il parlait, il y avait l'air de comme... Ben, de un, c'est sûr que l'endroit est bizarre, puis toi, t'es bizarre. Fait que je comprends qu'il peut...
Il sort de nulle part.
Mais là, il est super réticent de donner une arme aussi. Fait que là, tu sais, il y avait tout ce... Effectivement, il y avait quelque chose de pas tout à fait legit qui était là, tu sais.
Il manque des poules, moi. Ça avait eu des poules.
Des poules dans la maison. Exploser des poules comme dans le 4, là.
S'il y avait des poules dans la maison, ça aurait été vraiment le massacre.
Le best, c'était quand tu tirais sur un oiseau, puis il y avait genre 40 balles qui tombaient. Ouais. L'oiseau,
il était loadé.
Il était correct, là. Ah, ouais, voilà. On est moins un peu dans ce rapport-là, justement, le côté arcade que le 4, 5, 6 a amené, là, justement. Puis moi, j'ai beaucoup apprécié le 7 à cause de ça.
C'est ça, parce... la vision aussi, les retours en arrière à travers des cassettes de VHS, c'est des moments extraordinaires.
J'ai trouvé.
Le rapport au noir et blanc, le puzzle autour du gâteau de fête, moi, ils m'ont eu, parce que quand je suis allé la première fois, quand t'arrives sur le cadenas, ils te disent que si t'as pas le mot de passe, tu peux pas ouvrir le cadenas. Mm-hmm. Alors j'ai toujours pensé, quand je suis revenu moi, qu'il fallait que je fasse tous les esprits d'affaires pour arriver à ouvrir le cadenas, quand finalement, tu peux y aller directement.
En fait, faut que tu y ailles, parce que sinon, tu mets l'essence.
Oui, c'est ça. Non, je sais, mais
c'est bien fait, moi aussi,
cette petite indication-là que j'ai eue, moi, Et surtout qu'encore une fois, c'est un hasard. Quand tu rentres dans la pièce avec les ballons, ben, je veux dire, si tu vois la ballonne par terre, ça va. Si tu la vois pas, c'est même pas sur un rapport de compétence, c'est un rapport de chance.
Un petit peu.
Oui. Donc ça change un peu. J'ai trouvé ça.
C'est bien pensé.
Une finesse.
Mais c'est probablement le seul puzzle qui est intéressant dans tout le jeu parce que. Et puis, quand on dit que justement la tradition des survival horror est un peu dans l'aventure, dans la résolution de puzzles, c'est probablement le seul endroit où tu vas te casser les méninges pour avancer dans le jeu. Toutes les autres puzzles sont assez bidons.
Ils n'ont jamais été très très forts dans Resident Evil 7.
C'était plus... Ben, attends.
Après ça, dans tous les autres,
ouais, c'est ça, c'était
plus... Partout du 4, en tout cas, ça sert à rien.
Tu cherches des items pour pouvoir ouvrir les portes.
Non, mais par exemple, les puzzles visuels avec les petites statuettes qui fait des ombrages qu'on doit déplacer, je veux dire, ça, c'est assez médiocre. Et surtout que ça crée une espèce de bulle temporelle. Alors, quand t'actives le dispositif puis que t'essaies de placer ton truc, il n'y a plus rien peut t'attaquer de l'extérieur. Alors que ça aurait peut-être une belle occasion de faire en sorte que le père puisse continuer à te courir après dans la maison ou un mold. Puis là, je trouve qu'ils ont passé à côté un petit peu. J'ai trouvé qu'il y avait trop d'endroits sécuritaires dans le jeu, personnellement. Puis ça corrobore aussi le fait qu'on peut sauvegarder trop souvent. Je pense que dans le niveau de difficulté un petit peu plus élevé, je pense que là, t'es restreint dans tes niveaux de sauvegarde. Mais ça, j'ai trouvé que c'est ça, c'était un petit peu trop safe, c'est un petit peu trop sécuritaire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Oui, les safe rooms, donc les endroits où on tombe dans les boîtes avec les items.
Souvenez-vous
encore une fois, donc quand on est dans la grange, avant qu'on puisse aller jouer le puzzle du gâteau, on s'en va dans la grange et on a un combat d'arène contre un gros monstre qui nous vomit très très loin, donc un liquide toxique. Ben, je veux dire, juste avant, on a cette fameuse safe room où tu peux changer tes munitions. Fait que la première affaire que tu fais, ben, tu perds probablement. Tu sais ce que j'ai fait. Moi, j'ai perdu mon combat. Je suis retourné dans mon item. Je me suis loadé, puis ça a pris 2 secondes, puis ce combat-là était terminé. Fais-moi retourner en arrière pour aller chercher mes munitions que j'aurais dû amener ou j'ai pas mon flamethrower. Mais ça change quelque chose.
Dites-moi, dans la tradition des Resident Evil, il y a des cartouches d'encre qui nous permettent de sauvegarder, puis elles sont limitées, ces cartouches-là.
Ouais,
Exact. Là, j'ai trouvé que ça aurait été peut-être un.
Mais sont là les cassettes sont là. Faut que tu trouves dans le niveau hard. Faut que tu trouves les cassettes. Là, okay, tu peux sauvegarder comme tu veux.
Oui, mais ça, c'est vrai. Je suis vraiment content que tu dises ça. Je pense que ce niveau-là aurait dû être disponible en partant. Parce que là, moi, je l'ai joué à médium. J'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de dynamisme, des difficultés.
Il faut jouer à un Resident Evil.
C'est moins.
Oui, mais encore une fois, il faudrait voir. Je dis bon, moi, j'ai pas suivi assez toute la sortie ou le making-of. Je pense qu'il vient de sortir un making-of. On va peut-être en savoir un peu plus, là. Mais je pense qu'ils ont visé avec l'idée derrière la première personne de retourner aux sources. Parce que, bon, Resident Evil 1 devait se faire en première personne au départ. Donc, avant que Mikami plagie Frédéric Reynal avec Alone in the Dark, il y avait l'idée de faire, donc, un first person, une action en first person. Mais, évidemment, la technologie ne le permettait pas à l'époque. Et Mikami a finalement vu le jeu de Frédéric Reynal, Alone in the Dark, qui a pendant des années refusé de dire qu'il avait été son inspiration première. On l'a su à la sortie de The Evil Within. Mais je veux dire, c'était supposément un jeu à la première personne. Donc, quand on dit que Resident Evil retourne aux racines, c'est de retourner à la version 0.5 qui devait se faire à la première personne. Mais quelque part, aujourd'hui, en 2017, c'est aussi, je pense, une manière de mise en marché qui est sur l'expérience VR. Et tu peux pas faire un jeu trop dur dans une expérience VR, puisque là, c'est l'immersion, le sens de la présence, l'agency que t'as à l'intérieur, qui fait en sorte que, tout à coup, le plaisir du jeu est sur cette relation que t'as à l'intérieur d'un univers terrifiant. Moi, les abeilles dans la maison avec la mère, j'ai trippé sur les abeilles parce que les ruches sont immenses. T'as le nuage qui te débarque dessus. Et à un moment donné, j'allais chercher, à une des pièces, il y avait une esprit de grosse mouche, là, tu sais, qui venait.
Oui.
Alors, j'entendais le bruit. Et là, je me tourne et elle est dans la fenêtre. Donc, je sais que je suis à l'intérieur. Il n'y a pas de vitre en soi. Si on est dans. Alors, elle va-tu rentrer? Elle va pas rentrer? Ce moment magique-là, ça fait partie des expériences de jeu qui, le designer n'a peut-être pas pensé, elle va-tu rentrer, mais moi, comme joueur, j'y pense, et c'est ça qui fait mon expérience. Évidemment, quand tu ressors de la porte, elle vient t'attaquer parce que, bon, faut que tu continues. Mais il y a ce rapport d'événements qui fait en sorte que, dans un rapport de jouabilité, c'est peut-être pas intéressant, dans un rapport d'expérience, ça peut l'être. Donc, si les puzzles sont trop forts, ben, je veux dire, là, t'es en train de perdre ton immersion parce que tu deviens frustré. Mm-hmm. Et d'être dans des safe rooms, des safe zones, ça te permet de relaxer, de savoir, mm-hmm. ah bon, voilà. Et moi, je sais pas, en VR, moi, je veux dire, je l'ai joué en 24 heures pratiquement, là, mon 10 heures et quelque chose. Alors, j'ai pris des pauses. Quelque part aussi, peut-être que la dynamique de tomber devant un puzzle où je suis en sécurité, qui peut rien m'arriver, ça permet de dire, OK, bon, voilà, ou je prends ce coup, c'est là que j'arrête, je mets mon casse à terre, je m'en vais relaxer les yeux, je reviens, je repars sans avoir à attendre parce que je suis dans un espace de jeu ou un temps de jeu, une séquence de jeu, je peux pas sauvegarder, puis là,
je suis plutôt d'accord avec le fait que le design a peut-être été orienté plus vers le VR, puis c'est pour ça, en fait, que le jeu était peut-être un peu plus facile. Tu te dis, par exemple, il y a une manière, en tant que designer, de venir justement peut-être orienter le joueur dès le début de la partie. Je me rappelle dans Amnesia, par exemple, la première chose qu'ils disent, c'est fermer les lumières. Mettez votre volume très haut dans un headset, dans un espace clos, puis jouez seul. Puis c'est la meilleure manière de jouer Amnesia.
Mais quand t'es en VR, t'as pas besoin de fermer les lumières.
Non, mais clairement, mais je veux dire, la majorité des gens ne joueront pas en VR. T'sais. Fait que peut-être d'avoir eu un disclaimer au début qui dit, ben, si vous êtes sur PC ou autre chose, faites la version hard, cette version-là est pour vous. Si vous êtes en VR, vous allez triper sur...
Parce que pour l'horreur, tout à coup, je veux dire, moi qui joue la nuit mes jeux d'horreur, parce que c'est vraiment le moment parfait, Alone in the Dark, ben, tout à coup, avec le casque de VR bien ajusté, la boîte en pleine lumière. Je pense que tu as besoin de la lumière pour que les capteurs soient mieux gérés. Là. Donc, tu ne peux pas être totalement dans le noir de toute façon. Donc, et ça, ça change.
Ça change,
ça change beaucoup. Mais c'est, encore une fois, ça nous ramène à ce rapport donc, d'expérience qui est au cœur.
Je vais profiter d'un truc que vous avez dit. C'est intéressant. On a ces petits moments d'accalmie qui peut-être nous donnent l'espace de souffler. Puis ça nous permet d'apprécier peut-être plus la réalité virtuelle et tout ça. Je veux réfléchir sur ces changements d'émotions qui peuvent advenir avec ces changements d'espace et tout ça. Moi, j'ai trouvé que, personnellement, que le jeu était un petit peu trop orienté action. Je crois que, c'est un choix de design puis c'est tout à fait défendable. Mais j'ai trouvé que toute l'espèce de façon dont on construit la tension, dont on accumule la peur, dont c'est terrifiant dans l'inconnu, dans l'avancement lent, dans les longs couloirs et tout ça, j'ai trouvé que quand on avait des combats très, très action qui survenaient dans ces moments-là, puis qui pouvaient amener beaucoup de réessais, je trouvais qu'on là on glissait vers quelque chose qui était plus de l'ordre de la frustration, de la colère, de la pression, le stress. Puis j'ai trouvé que justement cette orientation-là, action, venait tuer un petit peu la construction de la tension, quelque chose d'un petit peu plus incertain, sombre. Je sais pas si vous partagez ça.
Ça reste un jeu, hein. Je veux dire, c'est dur de pas avoir des frustrations. On peut m'en aller encore une fois. On se rend compte que Jack, c'est un badass parce qu'il va se régénérer et on va finir par comprendre à la fin pourquoi, comment, de quelle manière. Donc là, tout à coup, il y a la frustration du moment quand on joue un jeu, donc que le mini-boss ou que le boss soit dur ou pas dur. On disait tantôt, la finale est trop facile, donc ça nous emmerde. L'arène est trop dure, le combat est trop dur. Imaginez comment
on est
quand on regarde cet ensemble-là, c'est quelque part, c'est ce qui fait... qu'on a eu un jeu qui était bien ou qui était pas bien. Un rapport critique doit aussi prendre les moments présents et après ça d'avoir un recul. Moi, je veux dire, quand on revient et on comprend qu'est-ce qui est arrivé à la famille Baker, moi, je veux dire, j'ai trouvé ce moment-là super trippant, même super touchant. Et il y a vraiment un rapport qui me permettait d'avoir... tout à coup, ça mettait en perspective ce que j'étais, ce que j'avais vécu. Et ça, pour un Resident Evil, d'habitude, Resident Evil, t'as le virus, tu te transformes, t'es badass, tu te formes en monstre tentaculaire. Et puis, voilà. Tout à coup, il y avait quelque chose d'un peu...
C'est juste que moi, je soulève ce point-là, c'est parce que quand je vois que Resident Evil est en train de s'inspirer de la tradition first-person survival horror, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment été chercher quelques éléments, mais ils n'ont pas embrassé cette tendance-là à 100%, qui est beaucoup plus axée sur la lenteur, l'exploration, des couloirs, l'incertitude de qu'est-ce qui va se passer. Pour moi, de voir la grand-mère dans sa chaise roulante à plein d'endroits partout, moi, ça m'a amené un frisson vraiment de terreur qui était puissant, qui se perd littéralement quand on rentre dans la section vraiment plus action-combat. Puis... On meurt, mettons, quelques fois dans un mètre de niveau, puis là, on revient, mais avec la frustration, avec l'idée qu'on va essayer autre chose, avec une pression, on essaie d'exécuter ça très rapidement, alors que on vient de perdre toute la lenteur, l'aspect progressif.
Ouais, mais tu retombes de l'empreinte et dans l'oscillation, je veux dire. Resident Evil, c'est une série.
Je suis d'accord.
Ça fait 20 ans que ça roule, on a des dizaines de jeux, il y a une formule qu'on doit respecter, qu'on va transformer. C'est comme si tout à coup, on retourne au cinéma, la Steadicam débarque, et d'un coup, un réalisateur peut décider, OK, maintenant, j'ai pas besoin d'avoir une caméra à l'épaule qui va bouger, ça va se promener dans l'espace de manière un peu transcendante. Wow! Ben, je veux dire, tout à coup, c'est un peu ce que Resident Evil 7 a fait avec le first person et puis la VR. On a maintenant la possibilité de faire ça, mais ça reste un jeu avec nos formules, donc on n'a pas le choix de reprendre nos formules pour qu'un joueur se sente à l'aise. Si j'ai un Resident Evil, à quelque part, je m'attends à... souvenez-vous, en 96, les gens disaient, OK, la boîte pour les items, ça c'est pas immersif, je la retrouve ailleurs. Donc, ça marche pas. Pourquoi je mets ça dans ma boîte-là, puis rendu quelque part plus loin, je retrouve les mêmes items? C'est un jeu. Donc, c'est une mécanique de jeu, je l'accepte ou non. Ben, là, maintenant, c'était la même chose. Comme tu dis, peut-être, au lieu d'avoir l'inventaire qu'on avait dans Resident Evil 4, où tu avais ta mallette que tu étais capable de grandir, ben là, t'as ta boîte, et puis, ben, tu joues avec. Comme je te dis, moi, mon boss, ça m'a pris 2 secondes, puis j'allais me chercher d'autres... J'ai changé mes armes, j'ai refait mon arsenal, puis ça a pris 2 secondes, il était mort. Ben, c'est un truc de jeu. Je peux dire j'aimais ça, je peux dire je pas aimé ça, mais il faut accepter.
Oui, non, ça c'est évident.
Probablement qu'on voulait pas trop s'éloigner non plus de Resident Evil 4.
Moi, je pense que c'est ça.
Il y a une partie de la série qui est axée beaucoup plus sur l'action, donc ils ont pas tout voulu évacuer ça, j'imagine, justement, pour pas...
Tout à fait. La seule chose, c'est que moi, je trouve que, je veux pas, dans ce passage à la première personne, qui est quelque chose d'assez radical dans la série, j'ai trouvé que, veux pas, tu peux pas faire abstraction de tout un bagage générique qui évolue depuis Amnesia, Penumbra, même si on va retourner un peu plus loin, avec Alien Isolation aussi, qui nous propose des expériences quand même assez uniques, plus axées sur le stealth.
Il y en avait du stealth, la fuite,
il y en avait, mais c'est tellement minime, c'est tellement bidon que moi j'ai pas trouvé que ça tenait là.
Déjà qu'on dit que c'était très proche de Outlast, t'imagines s'il avait fait du Outlast, on aurait dit Resident Evil est en train de reprendre la formule de Outlast.
Ouais, alors sans doute.
Resident Evil reprend sa formule, la déplace, la transforme. Tout le monde est content parce que bon, ben les joueurs qui ont connu, disons moi, le premier jeu, nostalgie de qu'est-ce que c'était. Bon, encore une fois, on a refait des versions HD. Est-ce que tu leur joues? Tu leur joues pas pour le jouer avec Tank Control, mais pour le jouer avec la vision contemporaine des contrôles un peu plus. Ben voilà ce qu'est l'évolution d'une série.
On s'entend que justement cette portion du jeu qui était plus stealth, quand on joue Mia par exemple, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un des moments les plus riches de l'expérience. Je n'aurais pris plus de ça.
Mais tu vois, je pense que ce qui est cool en ce moment, qu'on voit beaucoup dans les séries, c'est que il y a beaucoup de trucs qui commencent à être pris, des indies qui poussent l'enveloppe. Puis dans le cas de Resident Evil, il faut aussi qu'ils restent fidèles à ce qui existe.
Ouais,
mais ensemble, effectivement, tranquillement, j'ai l'impression que ça va organiquement s'en aller vers ça. Comme là, ils viennent de tester ça, ils vont voir c'était quoi leur bon coup, leur mauvais coup. Puis la discussion, comme on a là, ben, tout le monde est un peu en train de l'avoir aussi d'une manière ou d'une autre.
On attend tous Outlast 2 qui va changer un peu sa formule, qui va nous mettre dans des espaces plus ouverts.
Puis tous les jeux vont pousser les prochains.
Et on va
effectivement.
Et comme je le dis, donc, on pourra prendre ce podcast-là pour le rapport de VR Resident Evil quand on sera rendu en 2027, puis qu'on a eu 4 ou 5 jeux VR Resident Evil, on pourra se dire, OK, est-ce que... Ah, en 2017, c'était super trippant, souviens-toi!
Oui, rendu là, ça va être la chip cervicale, en fait, qui projette à travers tes yeux.
Il y a toujours une vision...
Toi, Jean-Michel, tout ça, est-ce que t'as l'impression d'avoir joué à Resident Evil 7 maintenant?
Il y a eu quelques petites menaces en studio, j'ai un courrier et ainsi de suite, mais j'aime beaucoup la conclusion, en fait, c'est vrai. Ce podcast-là va servir à nous conserver dans une espèce de mémoire de... une mémoire fraîche de Resident Evil et des innovations par rapport au VR. C'est une très, très belle façon de... On vient d'immortaliser cette conversation-là à jamais. J'espère que vous avez eu autant de plaisir, chers auditeurs, à l'écouter que chers invités à l'avoir exécuté. Merci beaucoup pour tout ça. Regardez, on ne peut que se laisser avec...
Nous avons survécu.
Cette pièce musicale. Non, mais sérieusement, du fond du cœur, et je mets mon cœur dans vos mains puis dans votre bouche, merci énormément pour l'émission.
Merci à toi de l'invitation.
Merci.
Je change pour... On crée de nouveaux problèmes.